Nous vous souhaitons la bienvenue à la conférence téléphonique de la société Theranexus dans le cadre de la publication des résultats cliniques de phase 2 du THN-102 de la maladie de Parkinson. Franck Mousson, cofondateur et président directeur général, Werner Rein, directeur médical, et Julien Weiss, directeur du business développement, débuteront cette présentation. Thierry Lambert, directeur financier, et Mathieu Charveria, cofondateur et directeur général délégué, seront également disponibles à l'issue de la présentation pour répondre à vos questions. Dans l'invitation que vous avez reçue, figure le lien pour vous connecter au diaporama de présentation. La présentation est également téléchargeable sur le site de Theranexus dans la rubrique Actionnaires et documents. À l'issue de cette conférence téléphonique, vous pourrez poser vos questions lors de la session de questions-réponses. Messieurs, je vous laisse la parole.
Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là avec nous. On va commencer la présentation. Ce qu'on va faire, c'est donc slide 2 pour ceux qui sont pas connectés, en tout cas directement sur la partie en ligne. Donc on va rapidement se présenter. Franck Mouton, donc je suis le PDG de la société, cofondateur aux côtés de Mathieu Charveria. J'étais responsable d'une équipe de recherche au CEA avant de créer Theranexus en 2013. Et je suis normalien de formation. Werner.
Oui, bonjour, mon nom est Werner Rein, je suis médecin, je suis neurologue et psychiatre de formation. J'ai travaillé pas mal d'années à l'université et après, pendant une vingtaine d'années chez Sanofi, en tant que directeur de développement clinique en psychiatrie globale. Et depuis 2017, je suis chez Theranexus.
Julien.
Bonjour, je suis Julien Vess, directeur du business développement. Donc, j'ai une formation initiale en sciences, complétée par un MBA. Je travaille dans le domaine des biotechnologies depuis plus de 15 ans maintenant. Et précédemment, j'ai été directeur du business développement chez Trophos, donc une société qui était également active dans le domaine du système nerveux central, jusqu'à la cession de l'entreprise à Roche en 2015 pour près de 500 millions d'euros. Et j'ai rejoint après Theranexus dès 2016.
Merci beaucoup. Donc on passe slide 3 rapidement sur le portefeuille de la société. C'est une société qui a été créée en 2013 avec une plateforme propriétaire, une technologie propriétaire, qui a développé un certain nombre de candidats médicaments. Aujourd'hui, on va se focaliser évidemment sur les résultats de la phase 2 et le succès de cette phase 2 dans la somnolence diurne excessive dans la maladie de Parkinson. Quelques mots sur le reste du portefeuille avant d'aborder le sujet du THN-102. On a annoncé en début d'année les résultats de la phase 1B, qui était une étude de pharmacodynamie chez le volontaire sain pour montrer l'efficacité pharmacologique procognitive de THN-201. Le THN-101 qui était positionné dans les douleurs neuropathiques est en attente aujourd'hui pour rentrer en phase 2. Donc on y reviendra à la fin de la présentation. Également un point rapide sur BBDF-101. En fin d'année 2019, nous avions annoncé la signature d'un accord de licence exclusive mondiale avec la fondation Beyond Batten Disease Foundation qui a identifié un produit dans cette maladie orpheline pédiatrique sévère. Et donc le produit là est en train de, ce candidat médicament est en train de préparer sa phase 1-3 pré-enregistrement. On y reviendra également, et un certain nombre d'autres candidats médicaments qui sont issus de la plateforme. Je veux bien le slide 4, s'il vous plaît. Donc, quelques mots sur la technologie propriétaire. Pour mémoire, Theranexus est pionnier sur le développement de candidats médicaments qui agissent sur l'interaction entre les neurones et les cellules non neuronales de notre cerveau, qu'on appelle les cellules gliales. Cette technologie est issue des recherches que nous menions, Mathieu Charveria et moi-même, au CEA. On a effectivement compris que les cellules gliales jouaient un rôle dans la réponse aux traitements classiquement utilisés et ciblant les neurones, que sont les psychotropes, antidépresseurs, anxiolytiques, hypnotiques, psychostimulants. Et l'autre, donc pour agir sur ces cellules visuelles, le choix que nous avons fait était un choix de repositionnement, c'est-à-dire que nous sommes allés chercher dans la pharmacopée humaine des médicaments qui étaient déjà enregistrés, pour lesquels on avait un fort recul d'utilisation, et qui, pour lesquels nous avons trouvé cette nouvelle activité d'agir de façon dose-dépendante et réversible sur ces fameuses cellules gliales pour renforcer l'efficacité d'un médicament qui agit sur les neurones. Et donc, nos produits, en fait, consistent à assembler au sein d'un même comprimé deux médicaments, un médicament psychotrope et un autre médicament repositionné agissant sur ces cellules gliales. Je veux bien le slide 5, s'il vous plaît. Merci. Donc, le produit phare de la société THN-102, évidemment, consiste à l'assemblage, comme je vous l'ai dit, d'un psychotrope et d'un effecteur des cellules gliales. La combinaison est le modafinil. C'est un psychostimulant de référence combiné avec la flécainide qui, à la base, est un antiarythmique et que nous utilisons à des doses qui sont 10 à 20 fois inférieures à la dose classiquement utilisée. Comme indiqué dans le slide précédent et en particulier sur ce produit-là, nous disposons d'une forte propriété intellectuelle, comme vous pouvez le voir, avec un brevet qui est délivré sur les marchés principaux, les États-Unis, l'Europe, l'Australie, le Canada, la Chine, enfin en tout cas les marchés qui évidemment nous intéressent, avec une date d'expiration qui va jusqu'en 2036, donc avec une couverture à la fois forte et longue sur ce produit. Également, et c'est tout l'avantage d'avoir choisi cette stratégie de combinaison en repositionnement, cela permet de disposer d'un certain nombre d'avantages réglementaires. Donc l'étude qui va vous être présentée juste après était une étude Europe-US, donc nous avons pu avoir un certain nombre d'interactions avec les autorités réglementaires américaines au moment de l'ouverture de l'autorisation d'essais cliniques. Et à ce moment-là, les interactions nous ont permis de confirmer que ce produit était bien éligible au statut de 505B2. Ce statut, en fait, permet à la société qui en dispose de pouvoir utiliser toutes les données publiques sur les médicaments qu'elle utilise dans son candidat médicament pour accélérer les procédures d'enregistrement. Donc, c'est un atout également sur la stratégie thérapeutique retenue par Theranexus. Merci, je veux bien la suivante. Donc, quelques mots de contexte avant de laisser la parole à Werner. Pourquoi la somnolence devient excessive dans la maladie de Parkinson? Donc, il s'agit d'un symptôme non moteur dans cette maladie. Vous savez que la maladie est caractérisée par des symptômes non moteurs, donc la rigidité, les tremblements en particulier, et il s'avère qu'il y a un certain nombre de symptômes non moteurs qui sont très invalidants chez ces patients. Et parmi les premiers, on retrouve la somnolence diurne excessive. C'est 40% des parkinsoniens qui présentent cette somnolence diurne excessive, c'est-à-dire les patients n'arrivent pas à maintenir un état d'éveil normal et ont tendance à s'endormir spontanément sans pouvoir maîtriser cet endormissement. C'est aujourd'hui plus de 2 millions de patients sur les 7 marchés principaux qui sont touchés par ce symptôme. Ce symptôme est également est caractérisé par une augmentation du risque accidentogène chez ces patients, qui constitue aujourd'hui l'une des premières causes d'institutionnalisation des patients. Et au-delà évidemment de l'impact sur les patients, sur les aidants et les soignants, cette première cause d'institutionnalisation a aussi un fort impact sur le fardeau médico-économique de prise en charge de ces patients. Julien y reviendra également. Aujourd'hui, aucun médicament n'est approuvé sur cette indication et aucun développement pharmaceutique n'a réussi à démontrer une efficacité sur cette indication. Donc, c'est la première fois qu'un industriel arrive à démontrer une efficacité sur ce symptôme. Donc, je vais laisser la parole à Werner pour qu'il vous présente le design et les résultats cliniques obtenus.
Merci Franck. Voilà, la slide suivante, c'est là. Je vais vous présenter d'abord, je vais vous expliquer le design de l'étude et les variables qu'on a regardées. Après, le cadre dans lequel ça s'est passé et finalement, les aspects d'efficacité et de sécurité qu'on a pu observer avec cette étude-là. C'est une étude phase 2. Elle est en double aveugle contre placebo et randomisée, et avec la particularité d'un crossover, c'est-à-dire que chaque patient reçoit le trois types de traitements d'une manière aléatoire, et les périodes de traitement sont coupées par une période de washout pour que tous les produits précédents ne soient plus actifs dans le système quand la période suivante commence. Qu'est-ce qui a été regardé? On avait placebo, il y avait 200, THN 202, c'est-à-dire 200 mg de modafinil, 2 mg de flécanide et 218 avec 18 mg de flécanide. Les variables qu'on regarde dans ce type d'étude, je vous rappelle, c'est la première étude dans le Parkinson. Alors, un aspect important, c'est de voir si le produit est bien toléré dans cette population relativement fragile et relativement âgée. On regarde alors les effets indésirables, les aspects cardiovasculaires, tous les aspects biologiques, hématologie, biochimie, et on a aussi regardé la situation au niveau des symptômes moteurs et autres non moteurs du Parkinson avec une échelle qui est standard pour le Parkinson, l'UPDRS, pour être sûr qu'il n'y a pas de problème du côté de la symptomatologie motrice. Dans un deuxième aspect, on a regardé l'efficacité avec l'échelle ESS, qui était l'endpoint principal pour l'efficacité. On a aussi regardé les deux aspects plutôt exploratoires avec la vigilance et la cognition, avec le PVT, le Psychomotor Vigilance Test, et la MoCA, qui est un test de cognition. Je vais expliquer un peu plus en détail l'ESS plus tard. Voilà ça, ce qui montre où ça a été réalisé et quelles étaient les caractéristiques des patients. C'est une étude internationale multicentrique dans 5 pays, France, Hongrie, République tchèque, Allemagne et US. 75 patients ont été inclus dans l'étude, sur laquelle on a des informations sur la sécurité du produit, et 72 de ces 75 ont été pu évaluer pour l'efficacité. Leurs caractéristiques sont les suivantes. L'âge moyen était 63 ans. Ça correspond assez bien à l'âge qu'on trouve en général dans les études du Parkinson, parce que c'est des patients plutôt âgés. 2 tiers d'hommes, un BMI de 27, ça veut dire qu'ils étaient dans un état, ils n'étaient pas des obèses. Et un score Heuneyard de 2,3. Heuneyard est un score qui mesure l'impact du Parkinson sur les handicaps moteurs, sur la capacité de la vie quotidienne. Ça va jusqu'à 5, qui est le cas le plus grave. Avec 2,3, on est dans une situation de patients qui sont handicapés, mais qui sont encore capables d'un traitement ambulatoire, par exemple, mais qui ont une certaine sévérité de leur symptomatologie. La suivante. Voilà, ça c'est l'endpoint principal d'efficacité, l'ESS. L'ESS, c'est une échelle de somnolence. Elle a 8 items où le patient doit décrire, pour des situations typiques de la vie quotidienne, son degré de somnolence dans ces situations. Ça donne un score qui va de 0 à 24, qui est le maximum. Et comme vous voyez sur l'histogramme de gauche, ça montre la sévérité des patients au début de l'étude, à la baseline. Ils étaient à 16,5 en moyenne, qui est une somnolence dans la zone plutôt sévère. Parce que, comme vous voyez, jusqu'à 10, c'est considéré normal, 11, 12, léger, 13, 15, 13 à 15, modéré, et à partir de 16, sévère. Alors les malades avaient une sévérité assez importante de l'ESS. C'était aussi le but de l'étude pour montrer l'efficacité du produit. Sur la gauche, vous voyez la sévérité de la somnolence des patients à la baseline de cette étude. La moyenne est dans la zone sévère. Alors, les patients avaient des symptômes de somnolence sévère. Et le plus important, ce que vous voyez sur la droite, c'est les résultats après 2 semaines de traitement. Et vous voyez qu'il y a une diminution d'environ 4% avec le THN 202, de 3,1 sur le 218 et de 4 placebo. Que placebo s'améliore, c'est normal dans ce type d'étude, alors ce n'est pas une surprise, et d'ailleurs, les deux points sont à peu près dans ce qu'on attend du placebo. L'essentiel, c'est la significativité est très claire et nette de 202 par rapport au placebo avec ces 4 points. Ces 4 points, c'est une amélioration qui est considérée comme cliniquement importante. Si on passe sur la slide suivante, ça se confirme aussi si on regarde l'ESS d'une manière différente, en catégorie, on regarde combien de malades, après le traitement, sont en rémission, c'est-à-dire qu'ils ont un score de l'EPOS qui est considéré comme normal. Et là, vous voyez, il y a 27,5% de normalisation chez 202, 25,4% chez 218 et 16% sur placebo. Là encore, placebo a toujours un effet, mais là aussi, la différence est très nette entre le placebo et les deux doses. Et on voit là que les deux doses, en fait, en termes de rémission, sont relativement proches dans leur performance. Les deux autres tests exploratoires qu'on a fait, le Sarcomere Divergence Test, c'est un test de réaction, en fait, et la MoCA, qui est un test de cognition, n'ont pas donné de résultats particulièrement différentiels entre les deux produits. Pour la MoCA, il faut dire, les malades n'étaient pas choisis pour un problème cognitif, alors du coup, ce n'est pas étonnant que la cognition ne s'améliore pas d'une manière spectaculaire. Voilà pour la suite. Je peux avoir la suivante? Oui. Ce qui est important aussi, comme je vous ai dit au départ, c'est la sécurité des produits dans cette population de malades qui sont âgés, vulnérables, comorbides, qui ont beaucoup d'autres traitements par ailleurs. Quand on a regardé les symptômes du Parkinson par ailleurs, ça n'a pas bougé. Ce n'est pas censé les améliorer, mais surtout, ça ne les a pas aggravés. Le traitement est globalement bien toléré. Pas d'événements sérieux liés au traitement a été rapporté. Pas de problème cardiovasculaire, ni pour des problèmes d'autres biologiques. Tout était sans aucun problème. Quand on regarde les effets indésirables, il y a une très très faible incidence en réalité. Je vous ai montré les 3 groupes. Vous avez 30% de symptômes qui arrivent sous traitement côté placebo et assez similaire pour 202 et un peu plus sur 218. C'est des symptômes relativement non spécifiques ou plutôt un peu qu'on attend d'un produit qui est activant, éveillant, un peu d'insomnie, et un peu de symptômes d'anxiété, mais plutôt modérés. Voilà pour la safety. Voilà. Pour résumer, ce qui est à retenir de cette étude, c'est que ce produit, cette combinaison de produits, c'est la première fois dans le développement industriel qu'on a pu montrer un effet significatif et assez robuste avec ce produit. Il est très bien toléré chez les Parkinsoniens, ce qui est important aussi. Et il faut le mettre dans le contexte des dernières années où il y a eu au moins 3 produits qui ont ciblé la même symptomatologie chez les Parkinsoniens, avec des études phase 2 et 3 assez importantes, jusqu'à plusieurs centaines de malades qui ont été traités et qui ont tous échoué. Aucune des études encore des produits a montré une efficacité sur les symptômes des somnolences dans cette population, et un avec le THN 102, le premier traitement qui a pu montrer cette amélioration contre placebo dans une étude contrôlée et bien menée. C'est important parce que on n'est pas dans la situation de l'apnée du sommeil ou de la narcolepsie où c'est relativement homogène. Les malades de Parkinson sont plus hétérogènes et du coup, c'est plus difficile de montrer un effet. Et le fait qu'on a eu dans les rémissions 25% de rémission avec le produit, c'est un indicateur indirect mais très clair que le bénéfice médical qu'on peut obtenir de ce produit est important. Et ça, il faut bien sûr le consolider dans les études de phase 3. Merci de
Merci.
votre attention.
Merci beaucoup, Werner. On va passer à l'étape, effectivement, suite à ce succès que va faire Terra Nexus sur ce produit. Je vais donc laisser la parole à Julien.
Globalement, ce que nous savons aujourd'hui de ce symptôme, donc la somnolence diurne excessive chez le malade atteint de Parkinson, ce que nous savions historiquement, grâce à la littérature, c'est que nous avons entre 20 et 50% des malades atteints de Parkinson qui présentent ce symptôme. Nous avons affiné cette compréhension à travers une enquête réalisée auprès de 23 experts en Europe et aux États-Unis. Et cette enquête nous permet d'affirmer aujourd'hui qu'il y aurait 40% des patients parkinsoniens qui sont atteints de ce symptôme. 40% des patients parkinsoniens, ça veut dire que globalement, sur les 7 principaux marchés, les 5 gros pays européens, US et Japon, on estime qu'il y aurait autour de 2 millions de patients souffrant de ce symptôme aujourd'hui. Or, ce symptôme aujourd'hui ne bénéficie d'aucun traitement. Il n'y a pour les neurologues aucun moyen de prendre en charge ce symptôme-là. Hormis le fait de jouer sur les traitements dits agonistes de la dopamine, donc des traitements qui sont les traitements de base pour aller prendre en charge les symptômes moteurs. Et donc là, les médecins ont un trade-off à faire finalement entre le contrôle des symptômes moteurs et le contrôle de la somnolence. Et l'un dans l'autre, ça les amène à nous dire, pour une très grande majorité d'entre eux, 73%, que la somnolence diurne excessive est un besoin médical important, non satisfait. Si on a voulu un peu catégoriser, comparer ce symptôme par rapport à d'autres symptômes de moteur présents dans la maladie et connus comme étant également importants, et on peut voir que, en considérant donc dans ce listing la dépression est celui qui est le plus fréquent, on peut voir que la somnolence diurne excessive arrive très haut dans ce classement auprès des neurologues que nous avons pu interroger. Par ailleurs, Werner vous expliquait que nous avons choisi de regarder la somnolence. Nous avons choisi de regarder la somnolence par l'utilisation d'un outil donc, qui est l'Epworth Sleepiness Scale, l'ESS. Cet outil, dans notre cas et dans le cas de la maladie de Parkinson, est particulièrement pertinent parce qu'il a été documenté dans la littérature que chaque point au-delà du seuil définissant la somnolence diurne excessive, donc chaque point au-delà du score de 11 sur le SS, 11 y compris, amène un surrisque accidentogène, principalement de chute, de 20% pour un patient atteint de la maladie de Parkinson. Or, ces chutes sont avec la démence et la psychose les principales causes d'institutionnalisation des patients. Et bon, voilà, on sait que d'un point de vue pharmaco-économique, d'un point de vue société et dépenses de santé, l'institutionnalisation des patients est un des principaux drivers de coûts. Et par exemple, aux États-Unis, l'association Michael J. Fox Foundation a mené une étude montrant que ce coût d'institutionnalisation des patients atteints de la maladie de Parkinson est de près de 7 milliards de dollars. Si on peut passer à la suivante, s'il vous plaît. Ces traitements nomoteurs, ces symptômes nomoteurs, font aujourd'hui l'objet de développement de la part d'industriels avec des produits qui arrivent de plus en plus sur le marché. On a pu voir ainsi émerger au cours des 5-6 dernières années des nouveaux traitements ciblant spécifiquement ce type de symptômes, donc qui sont les non-core symptoms, donc qui ne visent pas spécifiquement l'agilité et l'étranglement, mais qui ciblent l'aura de symptômes qu'il y a autour de symptômes principaux de la maladie. Et on peut voir que particulièrement aux États-Unis, et ce, indépendamment de la manière dont ce symptôme était plus ou moins bien pris en charge par des solutions alternatives quasi palliatives, on peut voir que lorsque un traitement arrive avec une spécificité de label pour ce symptôme, il obtient en général un très bon prix qui dépasse, en tout cas dans les exemples que nous avons pu identifier, toujours les 10 000 dollars l'année de traitement par patient. Donc, si je passe à la suivante, slide 17. Donc, la slide 17 vous montre que finalement, ces valeurs, ces prix de traitement se reflètent également dans la valeur des accords industriels qui sont réalisés sur des produits ciblant ces non-core symptoms. Et donc, on a pu voir sur les 4-5 dernières années des accords réguliers avec des très haute valeur, particulièrement pour les produits positionnés déjà en essai clinique et idéalement avec une preuve de concept telle que celle que nous avons. Et nous pouvons voir que ces valeurs dépassent en général les 500 millions de dollars, soit sur l'agrégat des upfront et milestones, soit sur des taux de redevance à deux chiffres assez élevés. Ce qui est aussi intéressant de noter dans ce tableau-là, c'est qu'on parle là aussi bien de nouvelles entités chimiques, je pense par exemple au deal Biogen Pfizer ou Lundbeck Traxton, mais aussi de produits 505(b)(2), donc de produits ou repositionnés ou reformulés pour être plus adaptés à l'utilisation chez les patients parkinsoniens. Et par exemple, l'accord, donc la cession de la société Neuroderm à Mitsubishi pour plus d'un milliard de dollars s'est faite sur une reformulation de la levodopa-carbidopa, donc le traitement de fond des patients parkinsoniens, mais dans une forme qui permet de mieux gérer les périodes on-off chez ces patients. Idem pour l'accord Synapsus-Synovion, donc qui est aussi une acquisition, donc qui, lui, est une reformulation de l'apomorphine qui, dans ce cas-là, a été formulée en forme sublinguale avec effet plus rapide et donc plus adapté également pour la prise en charge des périodes on-off. Donc, encore une fois, on voit que ce qui drive la valeur, c'est le besoin médical au-delà de la technologie. Et donc, nous espérons pouvoir nous inscrire dans la lignée de ces accords-là. Slide suivante. S'il vous plaît, merci. Donc, vous l'aurez compris, on est sur un besoin médical important avec un nombre de patients affectés par ce symptôme qui est aussi important. 2 millions de patients, des prix de traitement aujourd'hui accordés dans ce type de symptômes qui dépassent les 10 000 dollars l'année de traitement. Donc, on est sur un potentiel commercial extrêmement important de type blockbuster. Et par ailleurs, nous avons prospecté, nous sommes entrés déjà en discussion avec un certain nombre d'acteurs de l'industrie, des spécialistes, des grands industriels qui ont des franchises dans la maladie de Parkinson, qui souhaitent étendre ces franchises dans la maladie de Parkinson, optimiser leur force de vente. Un certain nombre de ces acteurs sont déjà sous accord de confidentialité. Un certain nombre de ces acteurs nous ont déjà informés avant d'obtenir les résultats que si nous avions des résultats positifs, ils souhaiteraient en savoir plus et continuer dans le process de discussion. Donc aujourd'hui, notre ambition, c'est de mener un process partenarial compétitif qui nous permettra de dégager un maximum de valeur pour l'actif THN-102. Donc, slide suivante. Merci. Donc, en résumé, encore une fois, je reprends mes besoins médicaux extrêmement importants. Aucun traitement disponible aujourd'hui sur le marché pour ce symptôme qui touche 2 millions de patients. Non seulement aucun traitement disponible sur le marché, mais je vous rappelle ce que vous disiez, Werner, aucun traitement n'a réussi à montrer ce que nous avons montré aujourd'hui. Donc, c'est extrêmement encourageant et prometteur pour nous dans les discussions à venir. Un potentiel de blockbuster avec des prix, notamment aux US, sur ce type de symptômes qui sont élevés. Par ailleurs, une confirmation de cette valeur avec des deals ces dernières années de très haute valeur après démonstration d'efficacité. Et aujourd'hui, un intérêt des industriels à confirmer avec les résultats que nous souhaitons entraîner dans un processus partenarial compétitif, encore une fois, afin de maximiser la valeur que nous pourrons générer avec cet actif. Je vous remercie.
Merci Julien. On va rapidement terminer avant de prendre vos questions. Vous l'avez compris, on est vraiment ravis d'avoir réussi cette étude de phase 2. Vous l'avez compris également dans une indication fortement invalidante et complexe qui aujourd'hui ne bénéficie d'aucun traitement et aucun traitement en développement n'a réussi ce que nous avons réussi là. Et par conséquent, ça veut également dire qu'il y a une opportunité industrielle de premier plan à aller chercher sur cette indication. C'est ce que nous allons conduire. Évidemment, ce travail a été aussi mené en amont. Julien a énormément travaillé en amont avec un certain nombre de partenaires qui vont être en discussion très rapide maintenant sur nos résultats. Effectivement, l'ambition de conclure un partenariat industriel de licence sur ce produit de très haute valeur. D'ici là, il y aura un certain nombre de news flow dans la société qui va aussi alimenter l'information marché. En particulier, je vous en ai parlé au départ sur le produit, le candidat médicament BBDF 101. Nous avons prévu d'obtenir l'IND ce semestre pour l'ouverture de l'essai clinique phase 1-3 pré-enregistrement. Nous avons également prévu d'obtenir la désignation orpheline des deux côtés de l'Atlantique les recrutements si effectivement le Covid le permet sans trop de difficultés qui sera prévu au S2 2020. Évidemment aussi, et on l'avait indiqué, la poursuite des autres programmes issus de la plateforme en fonction des capacités de la société à ce moment-là. Voilà, écoutez, un grand merci d'avoir pris le temps de nous écouter et puis on va passer à la session de questions-réponses. Merci beaucoup.
Nous avons une première question de Patrick Bor, de PBOR SARL. Monsieur, c'est à vous.
Oui, bonjour Monsieur Mouton, toutes mes félicitations. Je voulais vous demander, vous pouvez nous en dire plus sur les caractéristiques du partenaire industriel que vous recherchez? Est-ce que ce serait surtout un distributeur ou est-ce que ce serait quelqu'un qui vous accompagnerait dans l'ensemble de vos démarches? Est-ce que ce sera un seul partenaire ou est-ce que ce seront plusieurs partenaires plutôt géographiques ou plutôt sectoriels? Enfin, quelles sont les caractéristiques que vous recherchez?
Merci beaucoup pour vos encouragements déjà, ça nous fait chaud au cœur et je vais laisser Julien prendre la question.
Oui, merci. Globalement, aujourd'hui, nous cherchons un partenaire qui puisse mener le développement jusqu'à son terme et qui puisse aller derrière distribuer le produit sur les principaux marchés. Ceci étant dit, aujourd'hui, dans les partenaires avec qui nous sommes en discussion, nous avons souhaité avoir un panel assez large d'opportunités pour se permettre aussi de réfléchir aux différentes typologies, aux différents agencements qui pourraient nous permettre, encore une fois, de créer le maximum de valeur sur la base de ce succès. Nous avons également en discussion des partenaires territoriaux, Europe, US, Asie, des partenaires avec des portées globales, des partenaires avec qui nous pouvons discuter de logiques qui sont plus proches d'un esprit de co-développement, où nous serions encore très impliqués dans le développement du produit. Sous réserve effectivement que les partenaires supportent par contre les coûts de ce développement et d'autres partenaires avec qui l'esprit de la discussion va plutôt vers un transfert du dossier pour qu'ils avancent par eux-mêmes sur la suite. Encore une fois, je pense que nous avons peut-être à l'état dans l'esprit aujourd'hui, je veux dire, un partenariat qui soit plutôt global et qui soit plutôt vers un transfert d'activité vers le partenaire. Néanmoins, nous considérons toutes les offres, et nous considérons les offres, j'ai envie de dire, non seulement à l'aune des montants financiers qui seront proposés, mais également dans la capacité, la démonstration que le partenaire fera de sa volonté, de sa capacité à amener le produit jusqu'au bout, parce que nous le savons tous, ces types d'accords sont principalement, enfin la valeur de ces accords est principalement fondée sur les earn-out qui sont proposés par le partenaire, et donc tout l'intérêt est qu'on ait un partenaire qui s'engage fortement à porter le projet jusqu'au bout, parce qu'il y a une forte logique de portefeuille pour son activité.
Et donc, dans cette recherche, vous voyez comment le calendrier de la suite des choses, c'est-à-dire vers quelle date vous espérez avoir un accord et ensuite vers quelle date vous lanceriez une phase 3 ou les phases suivantes et vers quelle date vous pensez pouvoir avoir une autorisation de mise sur le marché par l'intermédiaire de ce partenaire.
Alors, je vais peut-être répondre sur la partie partenariat. Sur la suite du développement, je ne sais pas si Werner, tu souhaiteras amener des éléments. Donc, sur le partenariat, globalement, nous, notre enjeu aujourd'hui, c'est avant tout, encore une fois, de maintenir un processus compétitif. Toujours dans l'optique d'avoir un maximum, de dégager un maximum de valeur de ces résultats. Alors, cela implique que le process peut être un peu plus long que si nous nous focalisions directement sur un seul acteur, puisque nous allons devoir mener plusieurs due diligence, nous aurons des discussions qui se dérouleront en parallèle. Et puis en plus à ça s'ajoute le contexte un peu particulier dans lequel nous sommes aujourd'hui, hein, qui n'est pas non plus fa forcément favorable à accélérer les échanges. Donc globalement, on va dire le timeline, le délai que nous estimons raisonnable aujourd'hui, voilà, c'est de se dire qu'on a un partenariat signé dans les 9 à 12 mois. C'est un délai, voilà, c'est un délai que je pense être raisonnable. Ça peut aller plus vite si un partenaire est très actif et fait une offre qui finalement préempte totalement la discussion. Maintenant, il faut qu'on rentre dans le jeu. Les rendez-vous là sont déjà pris dès cette semaine pour entamer des discussions sur la suite. Donc voilà, c'est une activité en cours. Sur la suite du développement, notre ambition est de peut-être continuer à au moins à avancer la réflexion. Il y a toujours un équilibre un peu subtil à avoir entre le fait de continuer à avancer le développement d'un produit tout en discutant sur un partenariat avec le risque de prendre des choix ou d'engager des choix qui ne seraient pas favorables, en tout cas qui ne sont pas dans la stratégie qu'avait imaginé le partenaire. Donc c'est pour nous de trouver le bon équilibre là-dessus pour ne pas perdre de temps et en même temps ne pas trop engager le partenaire sur des solutions que nous aurons choisies. Et derrière, après, sur le plan de développement, phase 3 enregistrement, je pense que Werner, tu as une meilleure vision que moi de ce qui sera nécessaire de faire en phase 3.
Oui, Ce qu'on peut dire aujourd'hui, au moins, c'est en quelque sorte usual suspects. On envisage, on va être obligé de faire deux études de phase 3. Dans ce type d'indication, les durées de traitement sont plutôt de 6 à 12 semaines. Des études en parallèle, la question restera s'il faut faire ça avec un bras ou deux bras, deux doses différentes. Ça, c'est plutôt dépendant des négociations avec les autorités de santé. Et ça, en termes de réalisation, ça fait au moins 2 ans et demi, 3 ans pour faire des études. Plus préparation d'un dossier, plus 6 mois d'évaluation. Voilà, c'est à peu près. Mais c'est très pifométrique ce que j'ai dit là, excusez-moi. Mais c'est ce qui est à envisager.
Donc, ouais, là-dessus, donc on a prévu évidemment un certain nombre de boards suite aux résultats, et en particulier boards scientifiques, médicaux et réglementaires, pour évidemment avoir le maximum d'informations sur ces aspects-là suite au target product profile proposé sur la base des résultats disponibles. Là-dessus, ça veut dire en tout cas, d'après ce qu'on voit là, une autorisation de mise sur le marché qui interviendrait autour de 2024. Ça veut dire que on a 12 ans d'exclusivité avec la protection intellectuelle actuellement disponible.
D'accord, bah je vous remercie infiniment de vos questions. Juste pour une précision, donc je vois que le cours n'est pas, enfin l'action n'est pas cotée ce matin. Est-ce que c'est à votre demande ou est-ce que c'est simplement une question d'avoir trouvé un équilibre?
Thierry.
Oui, alors l'action effectivement n'a pas encore ouvert ce matin. Non, ce n'est pas notre demande. Elle est suspendue à la hausse puisqu'il y a un déséquilibre flagrant à l'achat dans le carnet d'ordre. Et donc il faut trouver un certain équilibre avant que le cours puisse trouver une cotation. Donc ça aura lieu à un moment donné aujourd'hui, mais là ça prend un petit peu de temps pour trouver son équilibre parce qu'il y a énormément de demandes et peu de vendeurs pour l'instant.
D'accord, ben merci beaucoup et encore toutes mes félicitations pour ces excellents
Un grand
résultats.
merci. Un grand merci.
Merci.
Merci. Nous n'avons pas d'autres questions par téléphone. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que si vous souhaitez poser une question par téléphone, veuillez composer le 01 sur votre clavier téléphonique. Nous n'avons pas d'autres questions par téléphone pour l'instant.
Ok, donc ça vous va tous, on va s'arrêter là. Un grand merci en tout cas d'avoir pris le temps ce matin en période de confinement de nous écouter. J'en profite parce que je ne l'ai pas fait avant aussi pour remercier les patients et les médecins investigateurs qui ont contribué au succès de cette étude. Et donc un grand merci à tous. Merci pour votre confiance et votre écoute. Et évidemment, toute l'équipe dirigeante de Terra Nexus se tient à votre disposition pour qu'on programme des calls spécifiques si vous le souhaitez pour aborder en détail ces résultats. Donc encore un grand merci et à bientôt. Au revoir.
Mesdames et
Merci
messieurs,
beaucoup.
la conférence est maintenant terminée. Merci à tous de votre participation. Vous pouvez à présent vous déconnecter.